Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Quittons un peu les réflexions plus de théoriques et de principes pour de nouveau contempler simplement les exemples des saints, et particulièrement une qui sera, qu'on pourrait qualifier en correspondance avec l'évangile du jour, une ouvrière de la première heure, et vous verrez sa conclusion à la fin de ses jours. Elle n'a pas murmuré comme ses ouvriers de la première heure dans la parabole. Il s'agit de sainte Adélaïde, qui est une impératrice d'Allemagne et une veuve, fêtée comme veuve dans l'Église, qui est décédée en 999, donc il y a plus de 1000 ans. Adélaïde naquit en 931 de son père, Rodolphe, dit le Belliqueux, et qui était roi de Bourgogne, et de sa mère, Berthe de Souabe, qui était descendante de Charlemagne. Adélaïde signifie « noble serment ». Pourquoi ce nom? Eh bien parce que, en signe d'alliance entre Hugues d'Arles, qui était roi d'Italie, et Rodolphe, donc le roi de Bourgogne, eh bien les deux princes fiancèrent l'un à l'autre leurs enfants, en signe de paix et d'amitié. Et c'est ainsi que donc Lothaire a été fiancé à Adélaïde, qui venait tout juste de naître. À la mort de son père, de Rodolphe, Hugues, prit sous sa protection la veuve Berthe et sa fille Adélaïde qui avait 6 ans. Élevée dans un palais somptueux, sans souci, elle reçut malgré tout une éducation qui lui évita la mollesse et qui lui apprit de bonne heure à plier sa volonté à l'obéissance, à l'humilité et à la piété. Et Adélaïde, fidèle à la grâce, sut aussi imposer silence au murmure de ses passions et progressa dans les vertus. En 1947, on célébra à Pavie, donc capitale du royaume d'Italie à l'époque, la bénédiction nuptiale, le mariage entre Lothaire et Adélaïde, qui avait alors 16 ans. Son époux était subjugué par sa piété et l'amabilité et la force des exemples de sa femme. Et il s'efforça de l'imiter dans ses vertus et ses pratiques pieuses. Le soin qu'Adélaïde donnait aux affaires de son salut ne l'empêchait point de vaquer à ses autres devoirs. Elle avait donc des heures marquées pour aller prier dans son oratoire, et aussi des heures, pour se livrer avec zèle ensuite à l'administration de sa maison. Mais Adélaïde va être frappée par de terribles coups de la Providence, des terribles épreuves. Béranger, qui était un marquis d'Ivray près de Turin, va faire la guerre subitement au royaume d'Italie et va s'emparer de la Lombardie, donc du royaume d'Adélaïde et de Lothaire. Et Adélaïde va perdre en même temps son époux et ses états. Après 3 ans de mariage, Lothaire donc mourait subitement d'une attaque de frénésie, selon les courtisans de Béranger, mais selon au dire des autres, il avait été empoisonné par un breuvage donné par Béranger, qui l'avait fait prisonnier. En tout cas, Adélaïde, elle, se retrouve veuve à 19 ans, avec une petite fille, Emma. Elle est sans protecteur et sans ressources. Béranger, cet homme ambitieux, voluptueux, brutal, va se faire couronner donc à Pavie, capitale de ce royaume, et va offrir à Adélaïde d'épouser son fils Adalbert. Bien sûr, Adélaïde refusa cette proposition cynique, et alors après les propositions flatteuses de Béranger vont venir les menaces. Il lui fait enlever tous les ornements de sa dignité, va la priver même de toute communication avec sa fille. Vous imaginez les peines et les souffrances de cette mère, plus vu les circonstances. Je vais vite, mais vous allez voir comment cette chrétienne impératrice, qui va finir impératrice, ne sera jamais épargnée de nombreuses souffrances que le commun des mortels peut connaître, et même elle va en connaître plus que le commun des mortels. Donc elle est coupée de toute communication avec sa fille, puis il va s'emparer d'elle, va l'enfermer dans un château, va lui faire raser la tête, ce qui est très humiliant pour une femme, et va la maltraiter, même parfois jusqu'à certains coups de pied et certains coups de poing. 4 mois plus tard, à ce régime, grâce à l'évêque de Reggio et grâce à un prêtre, elle va réussir à s'enfuir avec la servante qu'on lui avait laissée. En recevant ces nouvelles, son frère Conrad de Bourgogne va donc se hâter d'implorer la faveur d'un prince puissant qui était le roi de Germanie, Othon Ier, Othon le Grand, dit aussi, qui aussi, lui, depuis longtemps pour sa politique, eh bien, voyait une occasion la favorable pour descendre en Italie. La campagne va être menée vivement et le 23 septembre 951, il est à Pavie, maître de Pavie, et il va prendre le titre de roi d'Italie et il va envoyer à Adélaïde eh bien, une ambassade chargée de présents et en lui demandant sa main, puisque Othon était lui aussi veuf depuis 6 ans. Et comme Adélaïde était alors souveraine légitime de ce royaume d'Italie et qu'elle possédait les qualités pour bien gouverner cet état, eh bien Othon voulut se l'associer sur le trône de l'Allemagne. Et il la demande donc en mariage. Adélaïde, sur le conseil du pape, Agapite, va se décider dans ce sens et le mariage aura lieu vers la Noël 951 à Milan. De son mariage avec Othon, Adélaïde a eu 4 enfants, dont 2 moururent en bas âge. Patiente dans l'adversité, comme nous l'avons vu, Adélaïde va aussi se montrer grande et généreuse dans la prospérité, même envers ses ennemis. En Italie, quand Béranger fut vaincu dans une bataille sanglante et fait prisonnier avec sa femme et ses deux filles, Adélaïde va pousser la générosité jusqu'à appeler à la cour les 2 filles de son ancien persécuteur pour alléger le poids de l'affliction qui les accablait, puisque ces filles n'étaient pas responsables des méfaits de leur père. Vous voyez jusqu'où va aller cette générosité d'Adélaïde. En Allemagne, elle ne voulut jamais porter ni pierres précieuses, ni chaînes d'or. L'argent que son époux destinait aux objets de sa toilette, eh bien, elle l'affectait à orner les églises, ou à payer des dettes des malheureux, ou bien à leur procurer des logements plus commodes, ou une nourriture plus saine et plus abondante. Elle ne porta de vêtements précieux qu'aux grandes solennités de la religion, et seulement lorsque son époux l'exigeait d'elle. Ces détails sont tout à fait remarquables et manifestent bien un détachement complet de la vanité chez Adélaïde. Héroïque. Détachement héroïque. Elle assistait régulièrement à une ou plusieurs messes, selon que ses occupations le permettaient, et s'approchait souvent de la pénitence, et recevait d'abord tous les 8 jours, puis ensuite plusieurs fois par semaine l'Eucharistie, le pain des anges. En 955, donc va naître un de ses fils qui va perdurer, qui ne sera pas donc un des deux qui va vivre. C'est on l'appellera donc Othon comme son père. Ayant à peine 2 mois, cet enfant, l'impératrice le prit un jour dans ses bras et le porta à la chapelle et va l'offrir au Seigneur en le conjurant de répandre ses grâces sur lui en disant qu'elle consentirait volontiers à la mort de son fils si elle savait qu'il dut devenir plus tard victime du péché et de la séduction du monde. Vous voyez donc cette prière, plusieurs saintes mères de princes l'avaient fait, ou de mères tout simplement chrétiennes. On connaissait cette anecdote de Blanche de Castille, eh bien on peut rajouter sainte Adélaïde envers son fils Othon. Blanche l'avait fait envers Saint Louis. Des contradicteurs à la cour d'Allemagne prétendirent que sous prétexte de veiller à l'innocence de son fils, eh bien Adélaïde en fait amollissait le courage de son fils qui devait être empereur, enfin roi, et qu'elle l'éduquait plus comme un solitaire du désert plutôt que comme un futur prince. Mais alors, cependant, Adélaïde ne fléchit pas, connaissant trop les abus d'une éducation profane pour reculer devant ses difficultés chimériques. Et elle va s'adjoindre, pour éviter de nouvelles calomnies, dans l'éducation de son fils, Saint Brunon, qui était archevêque de Cologne et aussi le frère d'Othon Ier, donc de son époux, et d'un prêtre savant de l'époque, l'abbé Gerbet. Aux leçons des maîtres, elle joindra ses propres réflexions et inspirera surtout au jeune Othon la plus grande soumission à l'Église catholique, lui rappelant tout simplement la politique du Christ roi, lui rappelant souvent son origine céleste, ses triomphes sur les erreurs du paganisme, les services immenses que l'Église avait rendus au monde et qu'elle lui rendait encore tous les jours. Souvent, Elle le conduisait aussi avec elle lorsqu'elle visitait les pauvres, non seulement pour le rendre attentif aux misères du prochain dans son royaume, mais aussi pour faire naître dans son âme des sentiments de reconnaissance envers le Seigneur qui le comblait de tant de bienfaits. Adélaïde pardonnait à l'âge de son fils, au défaut de l'âge de son fils, mais sans jamais légitimer sa mauvaise volonté. Et elle disait, « Il faut plier l'arbre pendant qu'il est jeune, car plus tard, il n'en sera plus temps. » Elle ne suivait jamais la première impulsion pour infliger un châtiment à Othon, remettant le soin de le corriger au moment où elle était plus calme. Mais alors, quand était venu le moment de la correction, eh bien, elle savait user parfois de sévérité en se souvenant des paroles de Salomon dans l'Écriture, qu'un père qui épargne le bâton pour son fils indocile est son enfant, mais celui qui l'aime le châtie. Vous verrez que cette sévérité est aussi, c'est comme toute vertu chrétienne, c'est épouser aussi une vertu de clémence pour un châtiment mérité. Ces choses-là ne sont pas incompatibles, elles dépendent des circonstances et des moments de la vie. L'empereur Othon avait eu de sa première épouse, Editha, un fils nommé Louis-Dolphe, dont Adélaïde fut obligée de se charger. Et Louis-Dolphe avait un caractère plutôt violent et fier. Son orgueil, son ambition vont s'accroître avec l'âge, et la naissance du jeune Othon, eh bien, avec la crainte d'être privé peut-être du droit de succession, vont le blesser si vivement au cœur qu'il va se révolter contre son père, et avec les ducs de Bavière et de Lorraine, vont faire une guerre dans le royaume. L'empereur donc va rassembler son armée et marcher contre le fils révolté. Louis-Dolphe fut fait prisonnier à Ratisbonne, et l'empereur, eh bien, ne voulant pas décider lui-même du sort de ce jeune prince, va assembler un conseil de guerre pour se prononcer sur la punition méritée par ce fils révolté. Alors Adélaïde va justement, c'est là où je vous montrais la clémence, Adélaïde va adresser plusieurs suppliques à son époux pour demander la grâce du fils rebelle. Après 3 essais infructueux, Adélaïde va faire intervenir Saint Ulrich, évêque d'Augsbourg, et là elle aura le bonheur de voir la réconciliation entre le père et le fils. Adélaïde fonda plusieurs établissements religieux, justement à Magdebourg, à Colmar, dans le canton, ensuite dans le canton de Vaud, et spécialement aussi en Alsace. Elle fut aussi mêlée à la politique de son époux, bien sûr, dans la restauration de la dignité impériale, qui avait donc cessé depuis la séparation des 3 fils de Charlemagne. Othon va demander au pape Agapite de rétablir la dignité impériale, comme autrefois le pape Léon III l'avait créé en Occident en la personne de Charlemagne, à la condition bien sûr que les empereurs seraient les défenseurs titulaires de l'Église romaine contre les infidèles, les hérétiques et les séditieux. Cette situation, qui offrait des avantages sérieux, bien sûr, comme toute situation, offre aussi des inconvénients à cause d'une certaine dépendance où pouvait se trouver l'Église, le Saint-Siège, avec le pouvoir temporel. Ce sera la dispute entre l'Empire allemand et Saint Grégoire VII. Mais ça a aussi de nombreux avantages pour l'évangélisation et la chrétienté. C'est en tout cas le pape Jean XII qui va sacrer et couronner Othon et Adélaïde à Saint-Pierre de Rome le 2 février 962. Et à ce titre, donc, les Romains prêtaient aux empereurs un serment de fidélité qui était subordonné à la fidélité de leur roi, qui était le pape. Mais la bonne harmonie entre Othon et Jean XII va durer peu de temps, et les torts sont du côté de ce dernier, du pape Jean XII, qui avait été élu bien trop jeune au souverain pontificat, puisqu'il a été élu pape à l'âge de 18 ans. Ce jeune pape ne tarda pas à scandaliser la chrétienté par son attitude. Il avait été élevé comme un jeune seigneur de l'époque, grand ami de la chasse et des plaisirs bruyants, et il était enclin plutôt à suivre ses concupiscences qu'à faire son devoir papal. Il donnera bientôt donc prise aux pires accusations. Devant ces faits malheureux, Othon va réagir de manière imprudente et va réunir une assemblée d'évêques qui vont prononcer contre Jean XII une sentence de déposition et vont élire un antipape, Léon VIII. Ces événements donc font bien sûr souffrir Adélaïde, qui prie à la fois pour l'Église du Christ et qui était déchiré, et pour son époux, l'empereur. Ce n'est qu'après la mort de l'antipape en 965 que Othon va approuver le nouveau pontife romain, Jean XIII. Le jour de la Noël, encore, 967, le jeune roi d'Italie, Othon II, eh bien, reçut de Jean XIII la couronne impériale et vont dans la basilique Saint-Pierre, toujours, et va être associé au trône paternel. À cette occasion, Othon le Grand va envoyer une ambassade à la cour de Constantinople pour demander pour son fils la main de la princesse Théophanie, qui était fille de l'empereur d'Orient. Et c'est Jean XIII qui va bénir cette union. Donc l'an 1000 est très important et on l'oublie souvent à cause justement de Othon le Grand qui une certaine chrétienté de nouveau qui s'unit justement avec ce mariage et qui était prometteur de grandes grâces qui n'auront pas toutes leur effet malheureusement. L'empereur Othon, qui avait été le fils de Sainte Baltide, sa mère, qui était le frère de Saint Brunon, son frère, évêque de Cologne, qui était époux de Sainte Adélaïde, ça fait quand même beaucoup de saints autour d'un empereur, eh bien, n'était pas un saint, mais fera une bonne mort, en mai 973 à Meibleben. Il va laisser donc l'empire à son fils, Othon II, qui est âgé alors de 18 ans, et donc marié à la princesse grecque Théophanie. Adélaïde, elle, a 42 ans à ce moment-là, et elle est résolue de vivre saintement dans le veuvage. Plus ambitieux que capable, Othon II va mener une politique assez déplorable dont les fâcheux effets furent heureusement atténués par certains dignitaires qui étaient soit évêques, soit seigneurs de l'Empire, qui étaient aussi soutenus par les deux impératrices, Adélaïde et Théophanie. Ces deux femmes avaient mieux compris que Othon II l'importance particulièrement des questions slaves et vont favoriser, Adélaïde surtout, va favoriser l'archevêque de Magdebourg pour évangéliser le nord et l'est qui avaient été c'est à cette époque-là que vraiment que la Suède et tous les pays de l'est vont commencer à être vraiment évangélisés. Mais Théophanie va supporter assez impatiemment les avis de sa belle-mère, qui n'avait pas, certes, la finesse byzantine, ni le sens des affaires de Théophanie, mais qui n'était pas pourtant dénuée de toute qualité pour commander. En tout cas, Théophanie va persuader son époux qu'il avait tort de se laisser gouverner par sa mère. Othon montra donc d'abord de l'indifférence pour sa mère, puis ensuite il ne l'appellera plus au conseil des affaires. Les deux impératrices n'entrèrent jamais en lutte ouverte, mais étant tenues à l'écart de cette manière-là, et voyant que sa présence déplaisait à la cour, Adélaïde va la quitter pour revenir en Bourgogne près de son frère. Après un certain temps, Othon ouvrit les yeux sur sa politique et reconnut la cause du malaise général, qui était lui-même, et va demander de se réconcilier avec sa mère. Il choisit pour mieux y réussir Saint-Mailleul de Cluny, abbé de Cluny, pour décider Adélaïde à revenir en Allemagne, ce qu'elle fera au mois de décembre 980. Mais ce même mois où Adélaïde revient, eh bien une maladie violente va surprendre Othon II à Rome et va l'enlever de ce monde à l'âge de 29 ans. Donc la mère perd son fils, ce qui n'est pas dans l'ordre des choses. La mort ouvrait donc une nouvelle régence, puisque Othon III n'avait que 3 ans. La direction des affaires revient donc à Théophanie. Mais entre elle et Adélaïde, les brouilles furent fréquentes, et même quand leurs désirs convergeaient. Le rôle donc d'Adélaïde dans les affaires impériales va diminuer progressivement. Mais elle eut encore une influence assez grande pour intervenir dans les affaires de France, après la mort donc du roi Lothaire. Et il est curieux de constater que cette grand-mère du dernier roi carolingien va contribuer, malgré les mises en garde de sa fille Emma, à faire parvenir sur le trône de France Hugues Capet. C'est grâce à Adélaïde que Hugues Capet est monté sur le trône de France, qui était jugé moins dangereux pour les affaires, pour l'Empire, que les Carolingiens en France. Au milieu de toutes ces peines qui faisaient de la vie d'Adélaïde une sorte de martyr, on peut le dire quand même, elle disait souvent « La main de Dieu me frappe pour me guérir de mes faiblesses. surtout de mon amour-propre et de la vanité du monde. » Retenons cette sentence sage de cette sainte femme, car elle vaut pour tout chrétien. « La main de Dieu me frappe pour me guérir de mes faiblesses, surtout de mon amour-propre et de la vanité du monde. » Mais le 15 juin 1991, eh bien Théophanie, elle aussi, va mourir de manière subite. Toute l'Allemagne verra une punition dans cette mort prématurée. Donc c'est à la régence de Othon III revient à Adélaïde de nouveau, car il n'avait que 11 ans. Adélaïde est donc revenue plus puissante que jamais, mais elle ne regardait pas cette élévation, que comme un poids. Elle avait vu 3 trônes déjà, et pas mal de morts. Et la connaissance qu'elle avait acquise des hommes et des événements lui fournit assez de prudence politique et de bon sens pour ne pas modifier la ligne politique de sa belle-fille Théophanie défunte. Elle opéra cependant plusieurs changements dans quelques branches d'administration. Et quoiqu'elle eut le pouvoir de se venger de certains de ses ennemis qu'il avait calomniés, eh bien elle rendit là encore le bien pour le mal, comme le rapporte saint Odilon, son historien. Elle s'appliqua à rendre en tout cas à chacun prompte et bonne justice, sans distinction de rang et de condition. Et c'est là la qualité essentielle du chef. On attend d'un chef et on demande du chef simplement et avant tout cela, qu'il s'applique à rendre à chacun prompte et bonne justice, sans distinction de rang ni de condition. Elle ne confia la direction des provinces de l'Empire qu'à des hommes intègres avec lesquels elle correspondait souvent. Et elle se représentait souvent le compte terrible qu'elle devait rendre un jour au juge suprême. Et ça aussi, souvenons-nous de cette remarque de la sainte. Nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, un jour, nous devrons commander en quelqu'un, que ce soit commence par nos enfants, ou nous aurons toujours un inférieur sur qui nous aurons un certain pouvoir. Et il ne faut jamais oublier que nous aurons un compte à rendre, qui peut être terrible, au souverain juge qui nous demandera comment avons-nous exercé notre force. Est-ce pour le bien commun ou était-ce par passion ? L'empereur Othon III, étant parvenu à l'âge de la majorité, montra lui aussi quelques dispositions hostiles envers sa grand-mère, mais il n'alla pas jusqu'à la persécuter ouvertement. Ce refroidissement et différentes autres circonstances déterminèrent Adélaïde à quitter définitivement, en 1994, la cour de son petit-fils et pour rentrer en Bourgogne et y vivre dans la solitude. Durant son voyage de départ, les peuples d'Allemagne se pressaient partout sur son passage, s'estimant heureux quand ils pouvaient la voir, la toucher, etc. Elle visita tous les monastères qu'elle rencontra sur sa route, laissant partout des marques de sa générosité et de sa piété. Et particulièrement à l'abbaye de Saint-Maurice dans le Valais, ou le prieuré de Colmar qu'elle avait fondé, ou l'abbaye de Cluny qu'elle appréciait particulièrement. Les peines qu'Adélaïde avait éprouvé minèrent bien sûr insensiblement sa santé et montrèrent leurs conséquences après quelques années. En visite à l'abbaye de Selst, en Alsace, qu'elle avait fondée, une maladie aiguë va la retenir au lit, et assez vite, elle reçut le saint viatique et puis l'extrême onction, et recommanda son âme à Dieu. Et elle dira alors aux assistants ceci: c'est un miracle de la miséricorde de Dieu d'avoir si longtemps souffert sur la terre une plante inutile comme moi. Je devrais rendre d'éternelles actions de grâce à Jésus-Christ des innombrables bienfaits dont il m'a comblé. Je le remercie surtout de m'avoir préservé du danger des plaisirs du monde auxquels mon rang semblait m'inviter. Où en serait mon âme si j'eusse cherché à contenter tous mes désirs? Je meurs plus tranquille que je n'osais l'espérer. Je meurs plus contente que je ne pensais. Je croyais dans le temps mourir dans un désert. Donc elle pense à cette époque où Béranger l'avait privée de tout et l'a maltraitée. Je croyais dans le temps mourir dans un désert. Et voilà que je me trouve comme dans un palais. Combien d'entre ceux qui ont désiré ma mort sont morts avant moi? Que le Seigneur leur pardonne comme je leur pardonne moi-même. Et alors nous nous retrouverons tous ensemble au ciel. Je quitte avec plaisir le monde, car je m'en suis séparé depuis longtemps. Je quitte avec plaisir le monde, car je m'en suis séparé depuis longtemps. Et au milieu des litanies des saints, elle rendit son âme à Dieu, donc entre la nuit du 16-17 décembre de l'an 999, à l'âge de 69 ans. Adélaïde voulut reposer auprès de son époux, Othon le Grand, au monastère de Sels, ou de Sels-sur-le-Rhin, qui était une dépendance de Cluny en Alsace. Adélaïde fut canonisée par Urbain II à la demande de l'évêque de Strasbourg, mais au XIVe siècle, une inondation du Rhin va faire perdre toutes les reliques et va emporter son tombeau et nous fera perdre ses reliques. Finissons par une anecdote et par une sentence de la sainte qui nous sera toujours et à tous utile. Après avoir fait rebâtir le monastère de Saint-Martin de Tours, donc en France, qui avait été ruinée par un incendie, elle avait envoyé aussi un manteau impérial, comme don, à l'abbaye, pour orner le tombeau du Saint-Évêque. Et au messager chargé de porter ses offrandes, elle demanda de faire cette prière au moment de déposer le manteau sur le tombeau de Saint-Martin. Cette prière était celle-ci. « Évêque de Dieu, recevez ces humbles présents que vous offre par mes mains, Adélaïde, servante des serviteurs de Dieu, pécheresse par nature et impératrice par la grâce du Seigneur. » Ces trois titres résument bien toute la sainteté, la conscience chrétienne de cette sainte. Servante des serviteurs de Dieu, pécheresse par nature, mais impératrice par la grâce du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.